Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, et nous allons lire les 10 premiers versets. Jean, chapitre 10, nous commençons donc la lecture au verset 1er. Voici la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui parle. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et jusque-là, la parole de Dieu. Il y a quelques semaines, je crois que c'était le dernier dimanche du mois de juillet, début août, on a commencé à regarder ce chapitre 10 et on a dû interrompre pour des raisons de santé. Et Jean-Claude a pris le relais. Mais on revient donc sur ce chapitre 10. On va regarder dans les semaines qui viennent. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le verset 10 de ce chapitre 10. Mais rappelez-vous, on a vu dans les versets 1 à 5 que le Seigneur Jésus se présente comme le véritable berger. Celui qui a le droit d'entrer dans la bergerie pour appeler ses brebis. Parce qu'il accomplit tout ce que l'Ancien Testament annonçait au sujet du Messie. Il appelle ses brebis et ses brebis le suivent. On a ensuite vu dans les versets 6 à 9, le Seigneur Jésus déclare qu'il est la porte. Il est le seul accès pour les brebis, pour entrer dans le troupeau. Et cela se fait par la foi en lui. Ceux qui entrent dans ce troupeau, par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, sont sauvés, sont en sécurité et seront satisfaites. Et ce matin, comme j'ai dit, nous allons nous focaliser sur le verset 10, et on va voir ce verset en parallèle avec le psaume 23 qui nous a été lu tout à l'heure. Et on va regarder ce verset en répondant plutôt à une question importante. Pourquoi le Seigneur Jésus est-il venu dans ce monde? Le Seigneur Jésus lui-même a abordé ce sujet à plusieurs reprises, en particulier quand il était avec ses disciples. Par exemple, lorsque Pierre et un autre disciple voulaient que Jésus impressionne la foule avec son pouvoir de faire des miracles, le Seigneur Jésus a refusé, parce qu'il n'était pas venu pour cela. Il leur dit en Marc 1, verset 38, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Marc 1, verset 38. Le Seigneur Jésus est venu pour révéler Dieu, pour prêcher son évangile, pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Mais ceux qui limitent la mission du Seigneur Jésus-Christ à l'enseignement uniquement, ne remarquent pas qu'en réalité, ce n'est que le début. Quand le Seigneur Jésus-Christ s'approche de la fin de son ministère sur terre, quand il s'approche de Golgotha, de sa mort sur la croix, il décrit un peu plus la raison de sa venue dans ce monde. En Luc 19, verset 10, il dit ceci, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc 19, verset 10. Et en Matthieu 20, verset 28, le Seigneur Jésus met l'accent sur sa mort sur la croix. Matthieu 20, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Mais l'affirmation la plus importante qui concerne la raison de la venue de Jésus-Christ dans ce monde est sans doute ce verset 10 que nous avons lu dans l'évangile de Jean chapitre 10, ce verset que l'on trouve à la conclusion de cette parabole où le Seigneur explique qu'il est la porte du salut. Au verset 9, le Seigneur dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Il dit que ceux qui croient en lui seront sauvés, seront en sécurité, seront satisfaits. Et pour que cela soit clair, il rajoute au verset 10 « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » C'est pour donner la vie éternelle que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, qu'il a enseigné, mais qu'il a aussi donné sa vie sur la croix. Et c'est le premier point, celui qui donne la vie. Il faut se rappeler que le contexte ici, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire ces choses alors qu'il est en plein conflit avec les pharisiens. Dans le chapitre précédent, chapitre 9, le Seigneur Jésus-Christ a guéri un homme qui était aveugle, aveugle de naissance. Mais les pharisiens ont créé toutes sortes de problèmes avec cet homme. Ils sont même allés jusqu'à le chasser hors de la synagogue. Et tout ce que Jésus dit de lui-même ici dans le chapitre 10, il le dit pour souligner le contraste entre lui et les faux enseignants, les faux responsables religieux de l'époque. Et cela est résumé, et on voit ce contraste ici au verset 10. Le début du verset dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Voilà ce que le Seigneur Jésus dit au sujet de ces faux responsables religieux, et en particulier les pharisiens de l'époque. Ceux qui prêchent une voie de salut qui est basée sur les œuvres, sur les rituels, sur le fait de payer des sommes d'argent pour obtenir une bénédiction, ceux qui annoncent tout sauf la foi seule en Jésus-Christ, ces personnes sont des loups au milieu des agneaux. Les pharisiens, ils étaient admirés à l'époque pour leur zèle, mais leur attitude envers le Seigneur Jésus-Christ révèle qu'au fond de leur cœur, le mal est toujours présent. Ils sont toujours pécheurs, ils ne connaissent pas le pardon. Parmi les faux enseignants, les faux responsables que l'on trouve aujourd'hui, il y a ceux qui prêchent une tolérance pour le péché, mais qui ne tolèrent pas l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a aussi ceux qui prêchent pour leur gain personnel, qui transforment l'évangile pour attirer plus de monde, parce que plus il y a de monde, plus il y a d'argent qui rentre dans les caisses et sur leurs comptes en banque personnelle. Jésus dit que par sa mort sur la croix, il est la seule porte. La seule porte vers la vie. Et c'est par la foi que l'on entre, c'est par la foi en lui que l'on entre par cette porte. Tous les autres qui essayent d'entrer autrement, par-dessus les murs, qui disent aux autres de faire comme eux, sont des voleurs. Et comme le Seigneur le Jésus le dit, ils viennent que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est encore plus vrai quand on pense aux dirigeants incroyants dans ce monde qui aveuglent les foules avec leur mythe, avec leur utopie. Don Carson, dans son commentaire sur l'Évangile de Jean, écrit ceci: « Le monde recherche toujours ses sauveurs humanistes et politiques. C'est Hitler, c'est Staline, c'est Mao, c'est Pol Pot. Et ce monde n'apprend que trop tard que ces sauveurs, entre guillemets, confisquent les biens personnels, ils dérobent. Ils écrasent la vie humaine sous leurs pieds, ils égorgent. Et ils attaquent avec mépris tout ce qui a de la valeur, ils détruisent. » Voilà ce que font ces sauveurs, entre guillemets, humanistes et politiques. Ils dérobent, ils égorgent et ils détruisent. Et c'est vrai, non seulement pour les despotes, mais c'est aussi vrai pour les tyrans du matérialisme ou de la sensualité. Dans l'Ancien Testament, et on a lu un passage, et cela nous a été rappelé tout à l'heure, les idoles ont asservi ceux qui les adoraient. Et aujourd'hui, les idoles plus sophistiquées de notre société de consommation ne donnent jamais la vie. Ils la prennent. Les idoles prennent la vie. Alors que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Adam et Ève ont perdu l'accès à l'arbre de la vie quand ils ont péché, quand ils se sont détournés de Dieu. Et ce n'est que le Sauveur qui est venu du ciel qui peut nous délivrer du péché, nous restaurer, nous donner la vie éternelle. Quand on parle de vie éternelle, on a tendance à parler, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est souvent le cas, on a tendance à parler uniquement en termes de quantité. C'est la vie éternelle qui n'a pas de fin. Mais en Jean 10, verset 10, le Seigneur Jésus souligne la qualité de la vie qu'il donne. Pas seulement la quantité, la qualité. « Moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le Seigneur Jésus est venu pour donner non pas seulement une vie sans fin, ce qui est déjà quelque chose d'extraordinaire, une vie sans fin dans la présence de Dieu, mais il est venu pour donner une vie abondante. Et dans ce chapitre, il décrit l'abondance de cette vie en utilisant l'image des brebis qui sont au bon soin du berger. Le troupeau entre pour être en sécurité et il ressort pour se nourrir d'une nourriture riche dans les pâturages que Dieu a préparés. Et le tout sous l'œil du bon berger. Et quand on pense à cette image, on pense au psaume 23. Et donc on va venir au psaume 23. Et le deuxième point de ce message, c'est « Je ne manquerai de rien ». Je ne manquerai de rien. Deuxième grand point. Le psaume 23 dépeint pour nous de manière très poétique, cette vie qui est donnée à ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ comme leur berger. Un auteur du nom de Philip Keller a écrit un livre sur ce thème, un livre qui est basé sur sa propre expérience de berger. Philip Keller était berger lui-même. Et il note l'importance qu'apporte le berger au bien-être de ses brebis. Et le titre de ce livre, c'est « Un berger médite le psaume 23 », tout simplement. Il écrit ceci: « Le bien-être d'un troupeau dépend entièrement de la manière dont son propriétaire s'occupe de lui. Il n'est pour lui de plus grande récompense, de plus profonde satisfaction que de voir ses brebis heureuses, bien nourries, en sécurité et prospérant par ses soins. Il n'aura de cesse qu'elles ne soient pourvues des plus riches pâturages, d'eau claire, et d'abondante nourriture pour l'hiver. De l'aube à la nuit, ce berger totalement dévoué veille au bien-être de son troupeau. » Et sur la base de cette analogie, quand le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est venu pour apporter la vie en abondance. Cela implique sans aucun doute le soin qu'il apporte à pourvoir à nos besoins. Un berger peut passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à pourvoir aux besoins de son troupeau. Et à cause de l'implication du berger, à cause de l'implication du Seigneur Jésus-Christ comme notre berger, nous qui lui appartenons, nous pouvons effectivement dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais cela soulève une question. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit en Jean 10, verset 10, qu'il est venu apporter la vie en abondance, quand le psaume 23 dit « Je ne manquerai de rien », de quelle provision est-il question dans ses promesses? C'est une question importante à cause de la progression de nos jours de ce que l'on appelle l'évangile de la prospérité, qui affirme que Dieu promet la santé matérielle à tous ceux qui croient en lui. L'une des figures connues de ce mouvement est quelqu'un qui s'appelle Joel Osteen. Et il enseigne que la foi chrétienne apporte non seulement des bénédictions au ciel, mais aussi la joie, le succès et l'accomplissement personnel sur terre. Dans un de ses livres, il dit « Je crois que Dieu veut que nous soyons prospères. Je crois qu'il veut que nous soyons heureux. Je crois qu'il veut que nous profitions de nos vies. » Et il décrit tout cela en des termes matérialistes, en des termes de ce monde. Une autre figure est un homme qui s'appelle Creflo Dollar, qui a établi une liste pour le croyant. Et cette liste inclut la santé financière, la santé physique, le pouvoir de guérir les malades, de concevoir des enfants, de recevoir une réponse positive à toutes les prières, et bien sûr une protection constante. Et il rajoute que le vrai croyant a le pouvoir de ressusciter des morts. Et son argument, c'est « si Jésus l'a fait, vous pouvez le faire aussi ». Et tant d'autres figures de ce mouvement que l'on voit et dont les ouvrages sont traduits. Il y a Joyce Meyer, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Pat Robertson, Paula White et tant d'autres. Mais qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de cet évangile de la prospérité? Il y a certaines choses positives, et c'est pour ça que ça rend cet évangile tellement attrayant. Ces enseignants soulignent très souvent le fait que beaucoup de personnes se sentent opprimées, désespérées, inhibées par une estime de soi très basse. Et ces enseignants soulignent que le chrétien ne devrait pas aborder la vie de façon pessimiste, ni douter de la faveur de Dieu. Et c'est bien qu'ils soulignent ces choses. Quand ils disent que les changements dans nos vies exigent des changements dans notre façon de penser, c'est vrai. Celui qui est à Christ est une nouvelle créature. Il ne devrait plus penser comme le monde. Le gros problème au sujet de cet évangile de la prospérité, c'est sa réticence à parler du péché, à parler du besoin de trouver grâce à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Ils disent que le péché est un sujet déprimant. Et dire aux personnes qu'il faut confesser leur péché, qu'il faut rechercher le pardon, c'est en fait blesser l'estime de soi de ces personnes. Alors, ces enseignants promettent la prospérité sur le simple fait de croire, comme si la foi exerçait un pouvoir divin. Mais on ne reçoit pas la faveur de Dieu simplement en déclarant qu'on l'a reçue, comme affirment ses enseignants. Ce ne sont que des pécheurs qui s'approchent de Dieu par le sang de Jésus-Christ qui seront sauvés. Et seuls eux peuvent compter sur la bénédiction de Dieu pour cette vie et pour la vie à venir. Ce n'est que par la foi en Christ, dans la repentance, en demandant pardon pour nos péchés, que l'on peut connaître la faveur de Dieu. Enseigner autre chose, c'est tromper ceux qui sont perdus avec un faux espoir de la faveur de Dieu. Qu'en est-il de cette affirmation centrale de cet évangile de la prospérité que Dieu veut que tous ses enfants connaissent la richesse matérielle, la santé physique parfaite, le succès? Est-ce que c'est biblique? Non. Loin de là. Les enseignants de cet évangile de la prospérité disent que les épreuves telles que la maladie, la perte d'un emploi, les problèmes relationnels sont les résultats d'un manque de foi. Mais la parole de Dieu enseigne tout autre chose. La parole de Dieu enseigne que les épreuves font partie du plan de Dieu. Parce que nous sommes dans un monde déchu. Et que tout le monde connaît des épreuves. Mais que le croyant connaît des épreuves et ces épreuves font partie du plan de Dieu. Un plan que le Père a conçu pour amener ses enfants à la maturité. Jacques, par exemple, écrit, Jacques 1, versets 2 et 3. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques 1, versets 2 et 3. De plus, il est très troublant, très préoccupant d'entendre ceux qui croient dans l'évangile de la prospérité définir le salut en termes du nombre de maisons, de piscines, d'écuries, de voitures de luxe ou toute autre chose. Le Seigneur Jésus-Christ a enseigné tout à fait le contraire, Matthieu 6, versets 19 et 20. « Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. » Le Seigneur de conclure, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ceux qui ont des trésors, dont les trésors sont sur la terre, n'ont pas leur cœur tourné vers Dieu. Et cela soulève des questions au sujet de la situation éternelle de ceux pour qui l'évangile consiste en des richesses matérielles. Le Seigneur Jésus a appelé ses disciples au reniement de soi dans cette vie, pas à l'égocentrisme. Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Luc 9, verset 23. Ce verset 10 de l'évangile de Jean, chapitre 10, est souvent cité par les adeptes de l'évangile de la prospérité, parce que Jésus parle d'apporter la vie en abondance. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne parle pas d'apporter une abondance de choses. Il est venu apporter la vie. Et c'est cette vie qui est en abondance. Le Seigneur Jésus-Christ a d'ailleurs enseigné en Luc 12, verset 15, « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Le fait est que l'argent et les possessions matérielles n'apportent pas la joie, et encore moins la vie. Un commentateur écrit, « L'argent peut acheter des choses, même un champ, mais il ne peut acheter la satisfaction. » Or, le Seigneur Jésus-Christ promet la satisfaction de l'âme quand ses brebis vont paître dans les pâturages riches de sa parole vivifiante. Il arrive que des chrétiens spirituellement matures connaissent un succès dans le monde, mais ce n'est pas toujours le cas. Ceux qui sont bénis par des richesses matérielles ne doivent pas se sentir coupables tant que leur véritable trésor est au ciel. La gestion des richesses matérielles est un appel très exigeant, et ceux qui gèrent bien sont souvent une grande aide pour la cause de l'Évangile et le soutien de la proclamation de l'Évangile. Mais le Seigneur Jésus a averti que l'argent est souvent un piège. Luc 6, verset 20, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Certains ont fait la remarque suivante, vous l'avez peut-être déjà entendue, « Dieu est un père, pas un grand-père. » Il ne gâte pas ses enfants comme le font très souvent les grands-pères ou les grands-parents. Non, il les éduque comme un père. Il les éduque dans la justice. Il promet de répondre à tous leurs besoins réels, pas de satisfaire nos envies égoïstes. Et c'est pourquoi Paul peut s'écrire en Philippiens 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire. » En Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Nos besoins essentiels sont toujours et avant tout des besoins spirituels. Et tout croyant peut compter sur Dieu pour pourvoir la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. En fait, Dieu se plaît à nous faire prospérer spirituellement au milieu de nos difficultés dans ce monde. Et c'est un des points du livre de Job. Satan, vous rappelez, accuse Job de ne croire en Dieu qu'à cause de sa prospérité. Mais quand Job continue de louer Dieu au milieu de sa souffrance, Dieu a été glorifié. La vraie richesse du croyant, c'est que sa joie ne dépend pas de sa prospérité matérielle. Le Seigneur Jésus nous donne la vie en abondance dans toutes les circonstances, de sorte que nous pouvons l'adorer dans le contentement. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ceux qui courent après la joie du monde seront sans cesse agités. Ils voudront toujours plus. Ils ne seront jamais satisfaits. Alors que ceux qui trouvent leur contentement dans le Seigneur Jésus-Christ peuvent dire avec le psalmiste au verset 2, « Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. » Voilà le contentement du croyant. Troisième grand point, un guide pour le voyage. Après avoir parlé de la provision, le psaume 23 continue en parlant du berger qui guide son troupeau, verset 3. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous avez sans doute entendu ceci, mais la comparaison entre le chrétien et la brebis, cette comparaison n'est pas un compliment. Vous avez peut-être déjà entendu. Un commentateur écrit ceci, « Les brebis sont des créatures stupides. En fait, ce sont sans doute les animaux les plus stupides de la terre. Un aspect de leur stupidité se voit dans le fait qu'elles peuvent s'égarer. Les brebis aiment manger des choses qui les empoisonnent. Elles aiment faire des choses qui peuvent les tuer. Les brebis ont donc besoin d'un berger qu'elles peuvent suivre et pour leur permettre de vivre, de survivre. Et spirituellement parlant, c'est la même chose pour nous. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu donner la vie à ses brebis, cela implique un guidage permanent. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu, nous l'avons chanté, la divine parole. Cette vie abondante que le Seigneur Jésus donne est une vie qui est vécue sous le conseil, sous la direction de la parole de Dieu. C'est par elle que Dieu nous enseigne. C'est elle que l'Esprit vient appliquer dans la parole. Nous avons aussi des enseignants devant la réalité de la communion fraternelle. Et quand cela est nécessaire, le berger va étendre son bâton pour nous ramener sur le droit chemin. Mais le berger guide. Il guide son peuple, il guide son troupeau, il guide ses brebis. Mais quatrième point, il y a aussi un confort spirituel que le berger donne à ses brebis. Le Seigneur Jésus promet de donner la vie en abondance. Mais nous vivons dans un monde qui est déçu, dans un monde qui est dans l'ombre de la mort. Et psaume 23, verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » L'ombre de la mort prive beaucoup de personnes de la joie de vivre. Mais ça ne devrait pas pour le chrétien. Le chrétien qui connaît la promesse du Seigneur. Oui, nous devons faire face à la mort. Mais nous n'avons pas à la craindre. Pourquoi? Parce que le Seigneur promet d'être avec nous. Et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix a enlevé tout ce que le croyant pouvait craindre de la mort. La mort n'a plus son aiguillon. Elle est partie. Parce que nous savons que la mort n'est pas la finalité. Elle est le passage dans l'éternité. Et ce verset 4 est au centre du psaume. Il montre que la mort n'est qu'une ombre. La substance de la mort a été vaincue à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Et le croyant est rassuré, il peut être rassuré, il doit être rassuré. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le croyant a toutes les raisons de regarder vers la vie qui l'attend de l'autre côté de la tombe. Parce que c'est là que la vraie prospérité l'attend. C'est là que se trouvent toutes les richesses où la teigne ne peut pas détruire, où le voleur ne peut rien dérober, où le temps ne causera aucune rouille. Dans le verset 5 du psaume, nous avons trois promesses réconfortantes concernant la vie à venir. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Cela part de l'acceptation dans la présence glorieuse de Dieu. Malgré les accusations du péché de Satan, une place a été préparée pour chaque enfant de Dieu, pour chaque croyant qui est uni à Christ par la foi. Quelle que soit la famine que l'on peut connaître dans ce monde, une table de banquet a été préparée pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ l'a promis, il le dira un peu plus loin, Jean 14, verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Ensuite, le psalmiste continue, « Tu oins d'huile ma tête. » Les hôtes du temps passé fournissait du vin et de l'huile aux voyageurs fatigués. L'huile était là pour soulager la peau. Le vin était là pour rincer la gorge. C'était, rappelez-vous, c'est quand même un endroit très poussiéreux. C'est pour cette raison qu'un visage resplendissant décrivait le visage d'un ami. Le psaume 104, verset 15, nous dit ceci. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. On a là une vision du Seigneur Jésus-Christ qui nous accueille au ciel avec de l'huile pour soulager les coups de notre passage sur terre et par la mort. Et le psalmiste continue, « Ma coupe déborde ». Voilà la promesse de l'abondance à venir. Nous présentons notre coupe avec nos espoirs, mais cette coupe déborde. Nous vivons, oui, dans un monde pécheur, dans un monde difficile, mais c'est un réconfort de savoir que les gloires débordantes nous attendent au ciel. Cinquième point pour terminer, l'Éternel est mon berger. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, non pas pour nous donner de l'argent, non pas pour nous donner des possessions, des positions de puissance ou de prestige. Non, il est venu pour apporter la vie. Et cette vie se trouve dans une communion avec lui. Au début de l'évangile de Jean, Jean nous l'écrit, Jean 1, verset 4, en elle, c'est-à-dire dans la parole, c'est-à-dire en Christ, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et David conclut le psaume 23 avec une déclaration similaire concernant la communion et la vie à la fois maintenant, mais aussi dans l'éternité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais quelle est la clé pour cette vie abondante? Est-ce que la prospérité dépend de notre capacité à cultiver une haute estime de soi? Selon le psaume 23, la vie abondante ne dépend pas de la force, de la sagesse ou des compétences des brebis. Ce qui compte, c'est de connaître le bon berger. Un berger qui pourvoit, un berger qui guide, un berger qui réconforte, un berger qui nous reçoit et qui nous conduit dans les verts pâturages. Le Seigneur Jésus-Christ est venu comme le Sauveur qui donne la vie. Il a dit en Jean 10, verset 9, « Je suis la porte ». Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Verset 10, il dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Est-ce que nous, ce matin, nous pouvons dire, « L'Éternel est mon berger ?» Le chemin du péché ne conduira jamais vers de verts pâturages, vers les eaux paisibles. Mais le Seigneur Jésus est venu pour délivrer ses brebis des mensonges du péché, de l'esclavage de la publicité mensongère du péché. La croix de Golgotha est cette porte de l'enclos où l'on vient se confesser nos péchés. Et on peut ressentir comme chrétien dans le voyage du pèlerin, le poids de notre culpabilité tomber de nos épaules, de sorte que l'on peut entrer avec le reste du troupeau racheté par le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est ce que nous avons vécu, si nous pouvons dire « Oui, je suis venu à la croix, je suis venu à Christ, j'ai reconnu mon péché », j'ai reconnu que le Seigneur Jésus-Christ est le seul sauveur et je lui ai mis ma confiance en lui. Je me suis tourné vers lui. Alors nous pouvons, comme le psalmiste, nous dire, oui, que l'Éternel est mon berger. Nous pouvons nous réjouir de cette grâce qu'il nous a faite, de nous avoir fait entrer dans son troupeau. Et nous pouvons avancer avec foi, avec confiance dans cette merveilleuse déclaration qu'il nous fait ici en Jean 10, verset 10. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il nous aide à comprendre sa parole et à la vivre pour sa gloire. Amen.